Et vous connaissez sûrement Octobre Rose, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de Mars Bleu, le mois du dépistage du cancer colorectal? C'est en ce moment et on en parle ce matin sur Radio Présence. Bonjour docteur Marie Bichara.
Bonjour.
Vous êtes médecin de santé publique, responsable du site de la Haute-Garonne pour le dépistage des cancers, ceci au CRCDC, le Centre Régional de Coordination du Dépistage du Cancer. Médecin de santé publique, je le dis pour ceux qui l'ignoraient comme moi, c'est-à-dire que vous êtes médecin, vous vous adressez à un groupe, hein.
Oui, voilà, c'est ça. Les médecins de santé publique ne soignent pas une personne en particulier, comme peuvent le faire les médecins généralistes. Nous, on va plutôt s'intéresser à la santé des populations, à l'organisation du système de santé, à la prévention, etc.
Voilà, précision nécessaire. Alors, on parle ensemble de Mars Bleu. C'est une opération nationale. Elle a un symbole, cette opération. C'est un petit ruban bleu. Les partenaires, qui sont-ils, Marie Bichara?
Alors, globalement, les partenaires, le premier partenaire va être l'assurance maladie. Puisqu'ils participent directement au financement du dépistage des cancers. Mais ensuite, nous avons des associations qui sont extrêmement actives, comme la Ligue contre le cancer, l'ARC, ou après des professionnels de santé qui sont mobilisés sur le terrain, que ce soit des médecins généralistes, des médecins en centre d'établissement de santé, ou des acteurs sociaux.
Vous avez parlé de la Ligue, je la remercie, car c'est elle qui nous a mises en relation. Alors, on est ensemble pour parler du cancer colorectal. C'est pas un cancer très connu, pas très glamour, évidemment, on va le dire tout de suite, hein. De quoi il s'agit? On parle de cancer du côlon, on parle de cancer du rectum, les deux?
Alors oui, ce sont les deux, colorectal, c'est côlon plus rectum, donc en fait, c'est le gros intestin. Il faut savoir que le cancer colorectal, c'est le troisième cancer le plus fréquent en France et le deuxième par sa mortalité. Il est responsable chaque année d'un peu plus de 43 000 nouveaux cas et 17 000 décès, donc c'est quand même pas rien. Les hommes et les femmes sont à peu près également touchés, 54% d'hommes, 46% de femmes, donc tout le monde est vraiment concerné. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cancer qui est particulièrement lié à l'âge, c'est-à-dire qu'à partir de 50 ans, les risques de développer ce cancer sont beaucoup plus élevés. C'est à peu près 95% des cancers colorectaux qui se développent après 50 ans.
Ah oui, dis donc, c'est ébouriffant, ces chiffres. Alors, tout le monde est concerné, vous nous l'avez dit, donc hommes et femmes. À partir de 50 ans, ça s'accélère. Donc, troisième cancer le plus fréquent, avec une mortalité importante. Sauf que lorsqu'il est pris en charge, vite et tôt, on a 900 sur 10 de survie, je crois, hein.
C'est exactement ça. En fait, c'est un cancer qui évolue extrêmement lentement et donc qui nous permet d'avoir le temps d'agir. Il commence par se développer de façon très localisée au sein de la muqueuse de l'intestin, sous forme de petits champignons qu'on va appeler des polypes, puis des adénomes, qui peuvent rester comme ça toute leur vie, ou bien qui peuvent dégénérer petit à petit en lésions cancéreuses. Et ça va prendre du temps, ça peut prendre 5 à 10 ans, ce qui veut dire qu'on a vraiment le temps, parce que ces polypes vont quand même saigner et donc se manifester de façon plus ou moins visible. Si on les prend en charge au niveau du polype, au niveau du stade du polype, il suffit de retirer le polype et le cancer est guéri. Si par contre le polype évolue, forcément il va devenir un peu plus invasif, jusqu'à ensuite atteindre les ganglions, puis les vaisseaux sanguins et donc provoquer l'apparition de métastases. Et là, les prises en charge sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus difficiles à vivre, avec des risques sur la survie qui sont bien sûr plus élevés.
Vous avez parlé de saignement. Ce sont ça les symptômes qui doivent alerter? Y en a-t-il d'autres?
Alors, ça fait partie des symptômes qui peuvent alerter, effectivement. On a d'autres symptômes, comme par exemple l'apparition de douleurs abdominales inhabituelles. Donc le sang dans les selles, on l'a vu. Ça peut être également une constipation qui jusqu'ici n'était pas présente ou en tout cas pas aussi importante. Donc une majoration d'une constipation, une diarrhée inhabituelle, enfin des troubles du transit, voilà, un changement finalement dans le fonctionnement du système digestif. Ça peut être également ce qu'on appelle une altération de l'état général, c'est-à-dire une fatigue qui va apparaître de façon inexpliquée, accompagnée d'un amaigrissement, d'une perte de l'appétit. Ou alors encore des problèmes d'anémie qu'on ne peut pas non plus raccrocher à quelque chose de vraiment identifié. Tout ça, ça doit alerter et donc conduire à aller consulter son médecin généraliste.
Et oui, évidemment, on parle du cancer colorectal avec vous, Marie Bichara, ceci à l'endroit de ceux qui nous rejoindraient. On est en pleine période de Mars Bleu, mois consacré donc au dépistage de ce cancer. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque?
Alors, oui, il y a des facteurs de risque. Alors, plusieurs types de facteurs de risque. Le facteur le plus important, finalement, on l'a dit, c'est l'âge.
Ah oui.
Le simple fait d'avancer en âge va augmenter notre risque d'avoir un cancer du côlon et du rectum. Il y a d'autres facteurs qui sont très spécifiques et qui vont concerner Une petite partie de la population, c'est ce qu'on va appeler des facteurs génétiques. Donc là, il va y avoir des familles avec malheureusement des prédispositions génétiques.
Contre ça, on ne peut rien.
La seule chose qu'on peut faire finalement, c'est de les repérer. Quand on repère qu'il y a plusieurs cas de cancer du côlon dans une même famille, on va plutôt orienter ces gens vers une consultation d'oncogénétique pour ensuite leur proposer un suivi beaucoup plus adapté.
Mmh.
Il va y avoir également des maladies chroniques intestinales qui vont nécessiter une surveillance plus régulière également, comme les maladies de Crohn ou les rectocolites hémorragiques. Toutes ces personnes-là qui ont ce type de pathologie ou d'antécédents vont de toute façon se voir proposer par leur médecin un suivi plus régulier. Et puis après, il y a le tout venant, c'est-à-dire la population générale qui a priori n'a pas de facteur de risque, ou en tout cas qui pense ne pas en avoir. Et pour ces personnes-là, finalement, les facteurs de risque principaux, ça va être plus l'hygiène de vie,
ah oui,
les habitudes alimentaires par exemple, le manque de fibres, l'excès d'alcool, l'excès de gras. On dit classiquement la viande rouge également. Il faut savoir que la viande rouge a été identifiée comme un facteur de risque si on en prend de façon trop importante. Donc, on dit pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine, par exemple. Voilà.
C'est pas beaucoup.
C'est important à avoir en tête. Voilà. Et donc, le manque de fibres, le manque d'activité physique et le surpoids, l'obésité. Voilà, ce sont les principaux facteurs de risque identifiés en dehors de tout ce qui concerne la génétique.
Manger sain, manger équilibré, faire
exactement.
Du sport, c'est finalement une recommandation, là aussi, de santé publique. Hein.
Exactement, c'est ça. Et qui, du coup, va avoir un impact à la fois sur les cancers, sur les maladies cardiovasculaires, sur tellement de choses.
Alors, on parle de la prévention, hein, puisque vous êtes responsable du site de la Haute-Garonne pour le dépistage des cancers colorectaux.
Oui, colorectaux. Les cancers colorectaux, mais pas que.
AUX au pluriel. Alors, ça fait partie des trois cancers, avec le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, pour lequel le dépistage est organisé. Pourquoi cela en particulier et pourquoi ce n'est pas le cas de tous les cancers?
Alors, pourquoi est-ce qu'on va organiser un dépistage de masse, donc dépistage organisé à grande échelle pour cela? Tout simplement parce que ce sont des cancers pour lesquels, déjà, ce sont des cancers importants en termes de santé publique, c'est-à-dire qu'ils touchent énormément de monde. Mmh. Ils sont responsables quand même d'une mortalité importante également, donc ça vaut le coup de mettre en place des choses.
Mmh.
Ce sont des cancers, tous les trois, qui évoluent suffisamment lentement pour qu'on ait le temps d'agir et d'organiser des dépistages et des préventions régulières. On bénéficie pour ces trois cancers-là de tests de dépistage qui sont adaptés, qui ne sont pas invasifs, qui sont acceptables par la population. Donc, on ne va pas aller proposer des coloscopies à tout le monde, par exemple.
Mmh.
Ce sont des tests qui sont faciles. Une mammographie, c'est facile à aller faire. Un frottis du col de l'utérus également. Voilà.
Mmh. Mmh.
Donc, on bénéficie de tests de dépistage qui sont adaptés. Ce sont des tests qui sont faciles, qui sont reproductibles, qui sont acceptables.
Il faut que ça représente un coût moindre aussi que de se soigner, j'imagine.
Exactement. Il faut que, aussi, malheureusement, financièrement, ça vaille aussi le coût de mettre le paquet sur la prévention pour, à terme, diminuer les coûts de prise en charge.
Et puis,
il faut que ça soit, bien sûr, que la prévention de ces cancers ait eu un impact et montré qu'il y a un impact fort sur une diminution de la mortalité.
Bien sûr.
Il faut que ça soit efficace.
Et alors là, en quoi il consiste particulièrement le dépistage? Ça ne se passe pas que pendant Mars Bleu, on est d'accord. Mars Bleu, c'est le moment où on en parle. C'est ce qu'on fait ce matin ensemble.
Mars Bleu, c'est le moment où on mobilise tout le monde pour en parler et pour essayer de faire comprendre aux gens que c'est important de se faire dépister. Mais le dépistage, il est organisé, bien sûr, tout au long de l'année, de façon régulière. Alors nous, notre structure est en charge, par exemple, de gérer les invitations. Donc tous les mois, nous allons inviter un certain pourcentage de la population. Donc pour le cancer colorectal, ce sont tous les hommes et tous les femmes de 50 à 74 ans qui vont recevoir, chaque personne va recevoir tous les deux ans une invitation de notre part pour aller se rendre chez son médecin généraliste. Le médecin généraliste, pourquoi c'est important d'aller le voir pour ce test-là? C'est lui qui va faire le tri entre les personnes qui ont besoin d'un suivi plus spécifique de par leurs antécédents, on en parlait tout à l'heure, et puis ceux qui justement relèvent d'un dépistage classique avec le dépistage organisé, parce qu'ils n'ont pas de facteur de risque. Et donc, si on relève du dépistage organisé, le médecin généraliste va remettre le test de dépistage qu'on va pouvoir faire chez soi tranquillement, en toute intimité.
D'accord, donc j'ai 50 ans, je reçois tous les deux ans, à partir de mes 50 ans, cadeau d'anniversaire, une invitation à aller chez le généraliste. À
Exactement.
Partir de là, je reçois l'invitation tous les deux ans.
Exactement, tant que mon test est normal, je continue à être réinvité tous les deux ans. C'est important de le faire régulièrement, puisque c'est ça qui va permettre, en fait, si jamais une lésion réapparaît entre... qu'on ait le temps d'intervenir.
Alors c'est important de le préciser parce qu'on l'a dit dès le départ et je le redis sans complexe, hein, c'est pas un cancer très très glamour, personne n'a envie d'aller se montrer ses fesses, même s'il faut se bouger les fesses, hein, mais personne n'a envie d'aller les montrer comme ça, c'est chez soi que se fait le test.
Exactement, là c'est pas quand on va chercher le test qu'on va aller montrer ses fesses à son médecin, c'est pas du tout le but, là ça va être plus une conversation avec le médecin pour vraiment vérifier qu'on est bien dans les critères. Il nous remet le test, on rentre chez soi, le test il est tout bête, ça permet juste de faire un petit prélèvement de sel, donc on est tout seul dans ses toilettes, personne ne nous voit, c'est vraiment un moment intime qui n'est assumé que par nous-mêmes. C'est très rapide, ça prend quelques minutes, vraiment. On recueille les selles, il y a un petit dispositif de recueil sur une feuille de papier classique. Qui ensuite se gérera dans les, qui se jettera dans les toilettes, donc vraiment il n'y a même pas de manipulation, on ne touche pas les selles, on n'a pas besoin de mettre des gants, quoi que ce soit. Il y a un petit système avec une petite curette pour aller gratter la surface des selles, on met tout ça dans un flacon, on secoue, on met dans une enveloppe T préaffranchie, on envoie au labo et c'est fini.
Bon, ça vaut le
c'est
coup.
C'est fini.
Et ça
on reçoit les résultats chez soi.
On reçoit les résultats chez soi. Si jamais il y a un souci, on est averti. Et qu'est-ce qui se passe?
Bien sûr. Alors, s'il y a un souci, ça veut dire en gros, le principe du test, c'est de rechercher la présence de sang dans les selles. Donc, de sang microscopique, puisque si vous voyez du sang vous-même, surtout n'attendez pas d'avoir le test, il faut aller voir votre médecin, bien sûr. Voilà. Mais si le test arrive à détecter la présence de sang dans les selles, ça peut correspondre à quelque chose qui a saigné. Ce n'est pas forcément un cancer, ça peut être un petit polype tout bête, ça peut être un petit vaisseau qui a saigné. Donc bien sûr, votre médecin a été averti, vous recevez les résultats, vous allez le voir. Et là, il faudra trouver l'origine du saignement. Donc le médecin, à ce moment-là, proposera une coloscopie. Donc c'est 4% des cancers, c'est 4% des personnes qui font le test qui ont un résultat positif. Donc vous voyez, en fait, c'est quand même très très peu.
Et ça vaut le coup de le faire. Hein. Je rappelle le chiffre que vous nous avez donné en début d'entretien. Deuxième cause de mortalité par cancer en France, mais détecté tôt, il peut être guéri 9 fois sur 10. C'est quoi le taux de participation quand on reçoit ce message ici en Haute-Garonne?
Il est malheureusement encore très très bas, le taux de participation. On est à peine de 30%.
Oh bah quand même, 1 sur 3
1 sur 3, c'est pas encore beaucoup. En fait, ce qui est visé au niveau national, c'est 65% de participation. On estime qu'avec 65% de participation, on peut baisser d'environ 6000 cas par an les nouveaux cancers colorectaux. Et on baisse à peu près d'autant le nombre de décès, ce qui est quand même énorme. Mmh. Avec 30% de participation, on baisse d'environ 1000 à 2000 décès par an. C'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant.
C'est bien, mais pas suffisant. Un dernier mot, docteur Marie Bichara. Vous m'avez dit que pendant cette période de Covid, et on l'entend beaucoup, hein, des personnes rechignent à aller se faire diagnostiquer, rechignent à aller chez le médecin. C'est dramatique pour le dépistage, je crois. Hein.
Oui, c'est dramatique. En fait, on a vu les chiffres du dépistage et de la prévention d'une manière générale, hein, qui ont énormément baissé en 2020. La Ligue a fait une estimation, monsieur Kahn s'est exprimé récemment dessus, on estime à peu près 100 000 cas de cancer, tout cancer confondu, qui n'auraient pas été diagnostiqués en 2020 à cause de la crise du Covid. C'est-à-dire que du coup, ce sont autant de cancers pour lesquels il y a un retard de prise en charge, forcément. Et ça risque de conduire à peu près à 2 à 6 000 décès par cancer supplémentaires dans les prochaines années. C'est quand même énorme, et c'est vrai que finalement, aller chercher un test, réaliser son test, voilà, il vaut mieux sortir de la crise du Covid avec en plus la tête haute par rapport au cancer et ne pas avoir à gérer une deuxième crise.
Évidemment, un grand merci docteur Marie Bichara de toutes ces explications. Alors cet événement Mars Bleu, partout en région vont être organisées des opérations. Le dépistage, c'est tout le temps à partir du moment où vous avez 50 ans. Si par hasard vous vous dites, tiens, j'ai 50 ans, j'ai pas reçu mon invitation, et bien on peut contacter, il y a un numéro vert, je vais tout de suite le donner, c'est le 0800 801 301, 0800 801 301, ou aller voir son médecin traitant. Hein.
Exactement, le médecin généraliste peut vous remettre le test, même si vous n'avez pas reçu l'invitation, donc il ne faut pas hésiter à lui en parler, c'est le moment. Vous en avez entendu parler, donc maintenant il faut aller créer la conversation avec lui et vous verrez que ça se passera très bien.
Et bougez vos fesses alors. Merci beaucoup docteur.
Merci, au revoir.